RRB, l'invité du matin.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
On va revenir ce matin sur le Nouméa Women's Forum consacré à l'entrepreneuriat au féminin puisque vous recevez l'invité d'honneur de cette deuxième édition.
Lucie Branco est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez effectivement l'invité d'honneur de ce Nouméa Women's Forum. Vous êtes compagnon, tailleur de pierre, compagnon, et c'est à ce titre que vous avez été invité pour parler de votre parcours, parce qu'il n'a pas été facile dans le compagnonnage. On va y revenir. C'est surtout votre parcours dont on va parler ce matin. Mais peut-être faut-il rappeler ce que c'est que les compagnons, Lucie Branco, rapidement.
Oui, les compagnons, c'est une association de loi 1901, mais qui est aussi un organisme de formation et qui s'appuie sur le compagnonnage, donc qui est une voie de transmission de métier ancestrale.
Vous avez choisi tailleur de pierre. D'où vous vient cette vocation?
Est-ce
qu'on peut parler de vocation d'abord?
Eh bien, oui, je pense que c'est tout à fait ça. Mais c'est une rencontre. Je connaissais pas du tout le métier. J'ai rencontré en fait d'abord l'esprit du compagnonnage et ensuite le métier de tailleur de pierre.
Alors l'esprit du compagnonnage, vous l'avez rencontré comment? Il paraît que ça s'est passé dans un bar.
C'est ça, dans un bar de Lille qui s'appelle La Pirogue.
Ici, La Pirogue, ça a du sens en plus.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé avec des compagnons? Vous avez
voilà,
tout de suite tilté?
J'ai tout de suite tilté. En fait, ils dégageaient comme s'ils avaient une espèce d'auréole autour d'eux, de très lumineux, très très fiers. C'était des hommes vraiment bien assis, bien droits dans leur basket, très heureux. Et c'est ça qui m'a d'abord marqué. Et puis ensuite, en échangeant, tout s'est passé à ce moment-là.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 18-19 ans.
Alors le compagnonnage représente plusieurs métiers. Vous avez choisi tailleur de pierre.
Oui.
Pourquoi vous êtes dirigé vers la pierre et vers cette discipline ?
Je crois que c'est en fait, comme je vous le disais, c'est que je ne connaissais pas le métier, mais c'est l'esprit de ce métier-là qui m'a marqué. C'est voilà, quand j'ai rencontré cette corporation à Lille, j'ai eu le coup de cœur en fait. Ça a résonné complètement.
Est-ce que, parce que le métier de la pierre est peut-être un peu particulier, il est lié au bâtiment, il est lié au patrimoine, est-ce que cette dimension-là, vous l'avez ressentie année après année en travaillant ?
Mais je l'avais déjà ressenti avant, puisque à l'époque, mon grand-père m'emmenait toujours dans les églises, et donc je regardais ces monuments avec beaucoup de respect, et puis forcément, tailleur de pierre, ça faisait sens en fait, sans que je le sache déjà.
Alors, ce qui a marqué votre parcours, c'est que vous êtes la première femme compagnon, que ça n'existait pas avant que vous tentiez cette aventure. Ça a été vraiment une aventure compliquée pour vous, hein. Il a fallu vraiment lever beaucoup d'obstacles.
Oui, il n'y avait pas de femme du tout. Donc forcément, s'incruster dans un milieu d'hommes, ce n'est pas simple.
Qu'est-ce qu'il a fallu quelles sont les étapes, les obstacles que vous avez dû franchir? Parce que vous dites, je ne suis pas féministe, mais j'ai été obligée de le devenir.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les obstacles à ce niveau-là, vous pouvez vous en douter, ils sont multiples. Hein. C'est tout ce qui est stéréotype de genre, misogynie féminine aussi, puisqu'il n'y a pas que les hommes qui sont... Voilà, les femmes aussi peuvent avoir des réticences. Donc c'est se battre contre ça, c'est se battre contre des idées qui sont bien ancrées depuis des siècles et des siècles pour réussir à faire sa place simplement parce qu'on ressent le besoin.
Alors pourtant les compagnons pourraient dire qu'il y a une ouverture aux autres assez naturelle puisque la vie en communauté est une des dimensions du compagnonnage, mais là aussi il a fallu lever des barrières.
Oui, c'est vrai, oui. Les compagnons, ce qui a la spécificité des compagnons, c'est qu'en fait le métier est un outil. Et l'idée, c'est de réussir à s'émanciper en tant qu'homme avec un grand H, parmi des valeurs, parmi le voyage et avec la communauté. Donc effectivement, ça pouvait être un contresens avec les valeurs qui sont prônées chez les compagnons. Et c'est pour ça que ça a été aussi compliqué pour moi, c'était de réussir à leur faire comprendre que les valeurs qu'ils prônaient n'étaient pas cohérentes par rapport à mon rejet.
Il y a des moments où vous avez failli jeter l'éponge en disant « j'y arriverai pas ».
Oui, il y a eu plusieurs moments, ouais, effectivement. Mais j'ai toujours été soutenue, quand même.
Par qui, alors ? Votre famille
Par ma famille, par des compagnons bienveillants, par des amis, et puis aussi par la communauté.
Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu l'impression d'une reconnaissance, quand même, lorsque vous êtes arrivé au terme de votre parcours de formation, que vous êtes devenu compagnon ? Est-ce que vous avez eu l'impression, quand même, d'avoir levé un certain nombre de barrières et avoir une reconnaissance de la part de vos pairs ?
Alors, l'impression d'avoir levé des barrières, c'était un fait, mais j'étais pas toute seule, j'étais accompagnée. Ensuite, j'ai été reconnue, évidemment, lors de ma réception en 2007, quand je suis devenue compagnon, où là, j'ai été reconnue par mon métier, et puis ensuite, plus tard, par la République.
Vous ne travaillez plus aujourd'hui, la pierre, hein. Vous avez arrêté votre métier, pourquoi ?
Parce que je me suis blessée. Parce que pour faire mes preuves, j'en ai fait deux fois plus, et que mon dos a lâché, entre autres, et donc je me suis reconvertie.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la parole que vous pouvez porter, le témoignage qui est le vôtre, peut avoir du sens et du poids dans les, parmi les personnes que vous rencontrez ?
J'ai pas cette prétention-là. Je raconte ce que j'ai à raconter en espérant effectivement que ça puisse débloquer des leviers et chacun le prend à sa mesure.
Vous dites que le compagnonnage, c'est une aventure professionnelle, sociale et spirituelle. Alors, professionnelle, on le comprend, parce qu'il faut une vraie technicité irréprochable pour les compagnons. Sociale, parce qu'il y a un aspect de vie en communauté. Mmh. Et spirituelle, pourquoi il y a un aspect... pourquoi c'est une aventure spirituelle ? En quoi c'est une aventure spirituelle ?
Spirituelle, parce qu'on apprend énormément de choses, on apprend des valeurs, on a aussi des rituels. Et en fait, notre système est la transmission. Donc, dans tout cette manière de faire à la fois la transmission et les rituels, forcément, il y a une partie spirituelle.
En plus, vous avez travaillé sur des bâtiments d'église. Hein.
Oui,
il y a eu
fait,
la cathédrale de Rodez, l'église Saint-Chamond, me disiez-vous tout à l'heure. C'est des bâtiments particuliers quand on se retrouve comme ça face à des bâtiments qui ont cette histoire. Il y a aussi l'Assemblée nationale, le Sénat. Vous sentez quelque chose de profond en vous qui vibre?
Ah oui, mais tout à fait, parce que en fait, je viens à la suite des bâtisseurs, donc on ne peut être qu'humble déjà par rapport à l'œuvre qui a déjà été accomplie. C'est une œuvre commune aussi, le chantier, et puis c'est la pierre, et la pierre, en fait, elle nous façonne, donc il faut la respecter, et en plus on taille au bruit des cloches, donc c'est magique.
Vous avez beaucoup travaillé à Paris aussi, tailler des pierres à Paris, il y a peut-être un peu moins de cloches.
Si, il peut y en avoir, mais c'est pas les mêmes.
Aujourd'hui, on est dans un monde où on parle beaucoup de dématérialisation.
Oui.
Vous étiez en contact permanent avec le matériau.
Oui.
C'est important, ce contact avec le matériau, avec la pierre, le bois, pour ceux qui font du bois ou...
On peut pas faire sans la main. On peut pas faire sans le geste, on peut pas faire sans l'essence. Quand bien même il y a de la dématérialisation, on peut pas faire autrement, en fait. Et puis l'avantage des compagnons, dans notre système, en fait, de transmission, c'est qu'on est en contact aussi direct, puisqu'on a une vie communautaire. Donc, on crée du lien social et on apprend le métier en faisant. On peut pas faire sans aujourd'hui.
Le lien social, la vie communautaire, elle se passe pendant la formation de compagnons. Après, vous volez de vos propres ailes?
Oui, après, on vole de nos propres ailes. Au bout de 5 à 10 ans, on vole de nos propres ailes, effectivement. Mais on devient bénévole, sédentaire, et on continue à avoir ce lien avec les jeunes, puisqu'on les suit dans les maisons de compagnons.
Alors, c'est la première fois que vous venez en Nouvelle-Calédonie. Vous allez rester un peu plus d'une semaine.
Oui.
Mais dans cette semaine, vous avez quand même eu un moment avec les compagnons qui sont installés en Calédonie. C'est-à-dire que... On est compagnon une fois, on est compagnon pour toujours.
C'est ça, oui. On est compagnon à vie et puis on est frères aussi et sœurs. Donc on peut aller n'importe où dans le monde. Quand il y a des compagnons, on va forcément se retrouver comme si on se connaissait depuis... même si on ne se connaît pas.
Et qu'est-ce que vous partagez avec eux, alors ?
Les choses de la vie. On partage tout.
Merci beaucoup, Lucie Bronco, d'avoir avec nous ce matin. C'est votre premier séjour en Calédonie aussi. Vous découvrez ce territoire.
Oui, oui, avec
votre
ravissement.
Oui.
C'est super.
Bon, mais profitez-en alors.
Merci beaucoup. Merci
d'avoir été avec nous en direct ce matin.